Qui?
Ouellette.
Pollue le système, la planète.
En direct.
Scrap tout.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Vous avez, si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement vu ça passer. Toute l'unité de la police de Montréal qui patrouillait dans le secteur de Montréal-Nord qui a été suspendue sous les allégations de profilage racial. Et ça, je vais juste être clair en partant, là, si un policier fait ça pour vrai et qu'on peut prouver que c'est vrai, que le policier a fait du profilage racial, je demande, non pas sa suspension, mais son congédiement sur le champ. Tu sais, moi, un policier, si ça s'avère être vrai, un policier qui collecte des dreadlocks pour se faire des trophées dans son casier, ça mérite pas d'être une police. Mm-hmm. On va être clair en partant. Maintenant, quand on parle de profilage racial, des fois, j'ai l'impression qu'on tire large. Tu sais, et j'ai en tête l'exemple carrément du mari de la mairesse de Montréal. Le mari de la mairesse de Montréal, quand c'est arrivé, la mairesse elle-même a pris son propre mari en exemple, en disant même mon chum est victime de ça, puis il se fait arrêter constamment. Et on a appris dans les derniers jours que le mari de Mme Soraya j'oublie toujours.
Ben ouais,
hey, c'est une des seules politiciennes. Non, c'est pas vrai, ça m'arrive souvent. Mais j'ai de la misère à retenir son nom. Mme Soraya, donc, on a appris que son mari, dans les derniers jours, avait une liste d'infractions et que le monsieur, des fois, il payait pas ses tickets et que le monsieur allait vite et que le monsieur, en voiture, s'appressait puis il coupait les coins ronds. Puis... Ben là, je sais, tu sais, à un moment donné, je sais pas si on peut avoir affaire à du profilage racial ou à quelqu'un qui a un comportement délinquant, peu importe la couleur de sa peau.
Puis il faut que tu fasses un suivi, là.
Et là... Trouver quelqu'un parler de ça, puis là, nous, à Radio X, évidemment, on se fait dire, ben là, vous devez être des racistes, tu sais, donc vous allez prendre... Puis je me suis dit, ça serait intéressant de jaser avec quelqu'un de la communauté. Quelqu'un de la communauté montréalaise qui vit à Montréal et qui a peut-être ou pas vécu ça et qui a une analyse différente. Et on a trouvé quelqu'un. Il est animateur de radio à Radio Ville-Marie de Montréal et analyste politique. Il s'appelle Paulo Dantas. Et il est avec nous, M. Dantas. Bonjour.
Bonjour.
Je suis content que vous ayez accepté parce que moi, je pense que c'est via les échanges et via, des fois la confrontation, mais via le débat puis via les expériences qu'on peut avancer puis qu'on peut réussir à se comprendre. De ce que j'ai dit dans l'intro, vous retenez quoi de tout ça?
D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, puis je trouve que c'est un débat beaucoup plus large que ça, parce que les gens ont la tendance, vraiment, comme vous avez mentionné, les cas de conjoint de Mme Ferrada, c'est un bon exemple, parce qu'au début, tout le monde, c'était tellement facile d'écrire, tout le monde croyait que c'était du racisme parce qu'il est noir, puis on a vu après, comme vous avez mentionné aussi, que dans le fond, le problème, c'est que monsieur, il conduisait comme un cabochon, c'était ça le problème. Puis les gens ont ou la difficulté d'accepter ces discours. Mais personne ne parle vraiment. Moi, je n'ai pas parlé que je fais partie de la communauté noire. Puis il y a des gens qui disent, mais vous ne vous regardez pas les choses. Mais j'ai jamais senti de racisme ici. Les policiers, oui, ils font leur travail. Parce qu'on voit de plus en plus des policiers qui ont peur de faire leur travail parce qu'ils vont se faire filmer, ils vont se faire canceller. Et ça, ça complique un peu de faire leur travail avec la main attachée dans les deux. Mais une chose que les gens ne parlent pas beaucoup, que je pense qu'il faut discuter, c'est vraiment la responsabilité individuelle de chaque individu. Parce qu'on peut discuter du racisme, c'est correct, du contexte social, de l'histoire familiale, des institutions, c'est bien correct. Mais il ne faut jamais, d'après moi, de perdre de vue qu'un adulte est aussi responsable de ses propos et ses propres choix. Et c'est ça que ça se passe des fois, c'est leur choix de confronter la police, c'est leur choix d'être agressif. Puis qu'après, quand la police fait leur travail, les gens vont tout de suite crier « Ah, c'est vraiment du racisme systémique ». Je pense que ça, c'est dommage pour les forces policières, qu'on a besoin d'eux. Puis c'est ça, quand je vois ces gens de discours, c'est très vite, que l'imagination travaille plus fort que la logique. Puis je m'explique parce que vous avez même mentionné qu'il y avait des gens qui disaient « Ouais, voilà la preuve du racisme systémique, voilà que… » Mais la réalité, c'est que les gens ne parlent pas beaucoup, mais le fait, c'est que les collègues de ces policiers-là, c'est les mêmes collègues qui ont dénoncé le comportement et la direction a réagi tellement vite. Et donc, pour moi, c'est la preuve que le système n'est pas complètement incapable de, de, détecter et sanctionner les dérives. Donc, pour moi, c'est tout ça, ça prouve que les racismes systémiques, les gens crient, c'est déconstruit pour la preuve que M. Daguerre, celui-même qui était devant tout le monde, il n'a pas caché les faits. Il n'a pas réussi, il n'a pas essayé de régler tout à l'interne. Il a dit, voilà ce qui se passe, voilà comment on a réagi. Puis juste pour finir ces points, je trouve intéressant que cette semaine, la police de l'SPV m'a rencontré le public. Et qui était à Bissau? Madame Ferrada. Donc, oui. Madame Ferrada n'était pas là. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant de dire que des fois, c'est quand le sujet, le discours cadre avec un discours idéologique qui prédomine, malheureusement, les gens sont prêts à y aller. Mais quand les gens commencent à mettre des nuances, à dire c'est pas vraiment comme ça, ça va rentrer dans une dernière ligne de journaux, ça va être nuancé, puis les gens vont pas parler. Puis c'est ça que je trouve que c'est dommage, parce que ça peut un peu entacher les forces policières qui en ont besoin à Montréal, surtout avec les sentiments de sécurité qui n'arrêtent pas de grandir.
Parce qu'on sait, là, ça fait, tu sais, si c'est finalement, c'est pas si pire, ben ça fait pas cliquer, puis ça fait pas vendre de journaux. Mm-hmm. Donc ça prend du wow. Là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, vous avez un discours qui vous appartient. Parce que moi, c'est pas ce que j'entends. Moi, j'ai entendu, d'ailleurs, il y avait des gens de la communauté noire qui se sont présentés, puis pour donner pour peut-être renchérir sur ce que vous avez dit, on a quand même accepté de remplir une salle à pleine capacité avec des gens de la communauté noire pour poser des questions et pour avoir le chef de police en avant qui répond aux questions. Donc, déjà, on voit qu'il y a une ouverture. Mais est-ce que vous avez bien dit que vous ne sentiez pas avoir déjà vécu du profilage racial? Parce que moi, dans cette liste de gens qui sont venus poser des questions, j'ai entendu souvent, je ne connais personne de la communauté qui a jamais eu de problème avec la police. Donc, vous êtes la preuve vivante que c'est faux.
Pour moi, c'est complètement faux. Je ne suis pas en train de nier les racismes. Ça, c'est une chose.
Les racismes, il y en a partout.
Il faut se combattre. Exactement. Mais quand je vois les gens crier tout à fait, la première chose que ça se passe avec eux, c'est du racisme. Je trouve que c'est très malaisant parce que les gens de la communauté noire, j'écoute beaucoup les discours des gens qui disent, ouais, vous savez, on a vécu, notre ancêtre ont vécu beaucoup de traumatismes, tout ça, puis ça se transfère en génération. Mais là, je pose la question, oui, mais est où la résilience de notre ancêtre qui n'a pas été transmise? Elle est où le courage de nos ancêtres qui n'a pas été transmise? Donc, être toujours peinturé, établi comme une victime, ça n'aide pas le débat. Puis des fois, les gens voient des choses comme plus grandes qu'ils sont. Des fois, les policiers te regardent, le premier réflexe, ils me regardent parce que je suis noir. Non, moi, j'ai déjà, comme vous avez mentionné, je travaille dans une banque aussi, je travaille comme animateur de radio, je fais de l'analyse politique dans une émission de TV à Rive-Sud de Montréal. J'ai jamais senti de racisme. Au contraire, à partir du moment que moi, j'étais ouvert à la communauté, parce que moi, j'ai fait mon effort, je suis arrivé au Québec, j'étais accepté au Québec, je n'étais pas obligé à m'énoter d'arriver au Québec. Donc, je trouve que c'est mon responsabilité individuelle, que j'ai parlé tantôt, d'apprendre l'histoire du Québec, d'apprendre comment c'est le bien vivre au Québec. C'est ça l'importance des gens, d'aller vers. Mais les gens qui veulent se fermer, puis qui veulent vraiment rester en communauté, ne pas partager des choses, ne pas apprendre des choses, c'est ceux qui vont trouver ça plus difficile. Les gens, il y a plusieurs des gens, des Noirs que je connais aussi, ils ne connaissent même pas ce qui Marie-Joseph Angélique, ils ne connaissent même pas Mathieu Dacosta, qui était le premier Noir qui est arrivé au Québec, qui était très éduqué, puis avait beaucoup d'expérience, c'était les traducteurs de Champlain. Mais les gens parlent à partir d'un courant qui sont très sensibles. Puis moi, une chose que j'ai dit souvent aux gens, je suis vraiment chanceux, puis mon père m'a toujours enseigné la résilience émotionnelle. C'est pas parce que les policiers viennent me parler que c'est parce que je suis noir.
Oui.
C'est pas parce que quelqu'un m'a regardé de côté, c'est parce que je suis noir. Non, des fois, les gens ont juste un doute, des fois, les gens sont une question. Et les policiers, c'est la même chose. Je trouve qu'on est un peu naïf aujourd'hui, en 2026, de penser comme Rousseau, oh, les beaux sauvages, tout le monde est beau, puis après, non. Il y a une augmentation des sécurités au Québec, comme partout au monde, partout ailleurs. C'est pas parce que je suis noir, c'est pas parce que je suis chinois, c'est pas... Non. D'abord, avant tout, il faut, comme je dis, il y a la responsabilité individuelle. Si toi, tu fais ta job, même moi, j'ai zéro peur d'être interpellé. Ma voiture est correcte, je paie mes impôts, je fais mes arrêts comme il faut. Tu peux m'arrêter, ça me dérange pas. La même chose, si je suis à n'importe où, on voit aussi à Montréal aussi l'augmentation des vols de viande. Si quelqu'un m'arrête à la sortie d'une épicerie, puis dit, écoute, monsieur, je peux voir juste votre
ben oui.
voici, voilà, OK, c'est bon, c'est correct, je ne veux pas crier. Ah, bon, tu vois, vient Madame Blanche qui vient de passer, mais tu m'as... Non, 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 on doit arrêter avec ça, il faut arrêter parce que c'est victimisé. Et plus on se victimise, plus on va voir ce clivage entre les communautés. Ça va être très difficile aussi parce que les policiers, il faut qu'ils fassent leur job. Mais les gens qui disent ça n'ont jamais mis un uniforme, n'ont jamais été face à des gens vraiment dangereux. Mais en tout cas, vous savez, il y a
Est-ce que j'entends, M. Dantas, présentement, c'est qu'il y a des policiers maintenant qui s'empêchent de faire leur job par peur d'être ostracisés? Là, on est en train de vivre un phénomène inversé où le policier ne veut plus intercepter quelqu'un de la communauté noire parce qu'il se dit, là, je vais me faire traiter de raciste, ils vont me filmer. Mais je vais me faire chicaner par moi. Alors que là, je veux dire, on veut pas, personne ne veut vivre dans ce monde-là où la police n'intercepte pas une certaine communauté sous prétexte que c'est mal vu. Personne ne veut vivre là-dedans. Là.
Ben, c'est sûr qu'on voit de chaque fois qu'il arrive des événements malheureux comme ça. Puis comme vous avez dit au début, on condamne vraiment. Si les faits sont allégués, il faut vraiment condamner. Il n'y a pas de débat là-dedans. C'est inacceptable. Mais transformer chaque événement dans un débat politique, racial, ben, ça, c'est vraiment... complètement, écoute, je n'ai pas de mots pour expliquer ça, parce que les policiers, ils vont pas parler avec visage découvert parce qu'ils ont peur, mais on voit de plus en plus qu'ils disent « j'ai peur de faire ça, j'ai peur d'aller de telle place, j'ai peur de... » Parce que je sais que les premiers réflexes, puis c'est là que je pense qu'il entre la naïveté de certains courants idéologiques sur Québec, parce qu'ils pensent que les gens vont pas, les gens qui vont mal faire les choses vont pas utiliser ça. Les gens vont utiliser parce qu'ils disent, ah, je sais que si j'ai dit quelque chose par rapport à ma couleur, je vais faire peur aux policiers. Donc, lui, il va se mettre dans une situation inconfortable. Puis, ils vont profiter. Puis, si plus en plus on permet ces gens de situation, on va vivre dans un monde vraiment que c'est le chaos. Mais encore, c'est sûr que les experts, je vais mettre ça avec beaucoup de guillemets, vont dire, ah, mais c'est les gens qui disent, ah, il faut définancer la police. OK, quand ça va arriver, les moments qu'on va perdre le contrôle, ils vont appeler qui? Ils vont appeler Superman? Ils vont appeler Batman? Parce que c'est bien facile. C'est bien facile de penser d'une société que tout le monde est beau. Si tout le monde est bon, tout le monde est correct. Non, la violence existe. La force de police, il y a une raison pour exister. Oui, il faut encadrer des fois. Oui, il faut avoir des transparences, comme j'ai vu avec M. Daguerre. Voici qu'est-ce qui s'est passé, voici qu'est-ce qu'on a fait. Je suis là pour vous répondre. Ça, c'est la...
Mais ça semble pas être suffisant.
Ouais, puis on y reviendra, M. Daguerre, parce qu'il dit quand même que l'SPVM doit changer de culture. Moi, je trouve que ça, le message qu'il envoie, c'est de dire « tous mes policiers sont racistes ». Je trouve que c'est un peu gênant comme citation. Mais je veux juste vous emmener dans un sujet délicat, OK? M. Dantas, qui sont les gangs de rue? OK? Et des fois, je n'arrive pas à comprendre le fait que, tu sais, quand je vois les gens de la communauté dire ça n'a pas de bon sens, la police nous arrête, nous demande des questions de par notre look, et il y a de plus en plus de gangs de rue. Et bien, le phénomène est que dans les gangs de rue, souvent, bien, les gens ont la peau noire. Donc, il peut y avoir peut-être plus d'arrestations et tout ça. Et parfois, des fois, quand on fait de la surveillance de la part des policiers, on va retrouver des filles mineures, des blanches, peut-être des noires, dans la voiture, et on se rend compte que les gars étaient des gars de gang de rue qui allaient abuser des filles qui sont assises en arrière dans la voiture. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est dans la communauté noire, on veut pas protéger nos filles aussi? Qu'est-ce qui fait que des fois, j'ai l'impression qu'on va défendre qu'ils soient des criminels ou pas des criminels juste par la couleur de la peau? Puis ce qu'on veut, c'est que toutes nos filles soient en sécurité, peu importe la couleur de leur peau.
Mais c'est ça le problème du débat, que les gens commencent tout à fait avec le débat racial avant le débat sécuritaire, puis que tout le monde, au lieu de parler des citoyens, ils parlent de la couleur de la peau. On a vu aussi là, au Canada qu'ils ont essayé de donner des peines réduites à cause de passé difficile certaines personnes. C'est faux que ça se passe. C'est faux parce que les gars, si on prend deux frères qui étaient ensemble, mais ils étaient séparés, les parents, comment qu'on va juger ça? Puis vous avez pas mentionné, Mme Vincent, que les gens, ces communautés, il faut, je veux pas faire un lien direct parce que je sais que les gens vont dire, ah, c'était un raccourci intellectuel, mais je veux pas dire que manque de absence parentale, c'est égal criminalité. Mais il y a des études qui prouvent, c'est ça, qui prouvent, qui démontrent que l'absence de la famille, l'absence d'une présence parentale, un manque d'encadrement, un manque de réussite scolaire, ça peut amener certaines personnes, certaines communautés à la délinquance. Ça, c'est une chose. Puis, il y a une autre chose que les gens parlent beaucoup, c'est les modèles d'adultes. Parce que les gens qui sont en gang des rues, là, Les gens, c'est un peu comme les parents qui ont grandi, les deux qui ont fait l'université, les deux qui ont étudié, ils vont vouloir la même chose pour leurs enfants. Puis tout dépend de l'entourage que les enfants ont. Ils disent, voici, tonton est ingénieur, tonton est avocat. Il va être plus susceptible d'aller vers là. De l'autre côté, si l'enfant elle n'a pas d'encadrement, il n'a pas de présence parentale, il n'a pas de famille qui encadre, puis il est toujours laissé aller avec les gangs des rues, c'est leur exemple, c'est leur modèle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour éviter aussi, comme vous avez mentionné, que les filles s'en vont vers ça? Parce que les filles sont aussi victimes de tout ça. On parle souvent que ces gars-là, ils vont devant les maisons de gens qui ne sont pas avec leurs parents. Oui. Ils vont essayer de recruter ces gens-là. Qu'est-ce que les gens font? Et personne ne dit rien. Les gens disent, oh non, mais attends, mais là, il faut faire des études. Mais quand c'est déjà fait, quand ils sont là-dedans, c'est plus facile de dire, parce que l'événement des gangs des rues, ça fait qu'il grandit. On voit de plus en plus qui s'augmentent, puis on ne veut pas être naïf de dire qu'il n'y a pas une corrélation. On voit même dans les noms, ils essaient de lier leurs noms avec une communauté, avec la couleur des pas. Ça vient comme un trophée, mais on va continuer de regarder de façon naïve. Ah non, non, c'est juste des jeunes. Non, il va falloir réagir et accepter qu'ils ne sont pas juste des enfants, ce sont des adultes, des fois, qui ont fait des choix. Et ces gens-là qui ont fait ces choix, ils vont être capables d'être responsabilisés en conséquence.
Monsieur Dantas, ça a passé très vite. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci d'avoir accepté. J'ai trouvé que c'était un échange extraordinaire. Si jamais on veut vous reparler, est-ce qu'on peut, on peut vous communiquer à l'occasion? Parce que je trouve ça intéressant de discuter avec vous.
Toujours disponible, c'est un plaisir de parler avec vous. Puis vous avez mon numéro, appelle-moi quand vous voulez.
Monsieur Dantas, merci beaucoup.
Merci à vous, bonne fin de journée.
Bonne fin de journée, au plaisir. Paulo Dantas, il est analyste politique et il est animateur radio à Montréal également. Puis j'ai appris dans la discussion qu'il travaille aussi dans une banque.
Oui, mais...
Donc, il y a de la job.
C'est pas évident, hein, parce que il y a certains intervenants qui pensent comme M. Dantas de la communauté puis qui veulent pas parler parce que la communauté... Ouais. Il y a un certain pas de cette communauté-là que si tu dis réellement ce que tu penses, la manière dont tu parles, dont tu protèges pas notre
identité...
T'es
pas dans la gang, ouais.
Puis, je veux dire, c'est une communauté de six serrés quand
ça,
même, on va leur donner.
Puis même, des fois, je doute sur... Tu sais, souvent, on dit c'est une minorité bruyante. Des fois, je me demande s'il n'y a pas une bonne gang de la communauté, justement, qui commence à en avoir plein le cul.
Parce que,
excusez l'expression.
Un criminel, j'ose croire que quand tu es un bon citoyen, t'as pas envie qu'il soit ton voisin, même s'il a la même couleur de peau que toi.
Effectivement. Ah, moi, un criminel blanc, je le veux pas, là. J'aime mieux M. Dantas comme voisin qu'un criminel blanc.
Ben oui.
C'est tout le temps qu'on a, faut vraiment la pause, mais c'est intéressant. On revient.
Ouellette.
Petite pause.
En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.